Bonjour, bienvenue sur Neptune FM. Je m'appelle Laurence Dorlac, j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette cinquième édition du rendez-vous avec les auteurs de l'île Dieu, une île des auteurs, initiée par Marie de Henzel. Toute cette semaine, nous allons passer pas loin d'un quart d'heure avec quelques auteurs sur Neptune FM. Et justement, aujourd'hui, bonjour Marie de Henzel.
Bonjour Laurence.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour parler d'abord de ce rendez-vous que vous avez créé en 2009, qui a lieu tous les deux ans. Ce qui reste amusant, je trouve, c'est son éclectisme. Le propos, c'est quoi, Marie de Henzel? C'est tout simplement d'être auteur et de connaître, de vivre sur l'île Dieu?
C'est-à-dire qu'en 2009, j'ai découvert que beaucoup d'auteurs avaient une maison à l'île Dieu, une maison généralement secondaire d'ailleurs, et qu'ils venaient écrire aussi. Et je me suis dit, mais c'est drôle, les îlets n'ont pas l'air de les connaître. Alors, comme il n'y avait pas grand-chose autour du livre, je me suis... La première année, j'ai proposé au café, d'ailleurs, d'accueillir un auteur, chaque café sur le port. Et puis, on a eu une présentation des auteurs par Sophie Davon, qui était un peu la marraine de cet événement. Et puis, ça a eu beaucoup de succès, finalement.
Et puis, ça vous a permis à vous de découvrir qu'il y a des auteurs, il est.
Alors, il y a des auteurs.
Qui commettent des ouvrages.
Voilà, il y a des auteurs, il est, que j'ai découvert, absolument. Et puis, nous avons aussi un Amin Malouf, nous avons un académicien sur l'île aussi. L'éclectisme, oui, parce que tous ces auteurs traitent de sujets très différents. Et c'est ce qu'on va voir aussi cette semaine, parce qu'on a choisi quatre autres auteurs qui vont parler de sujets très, très différents, mais c'est tout à fait à l'image cette biennale littéraire où les gens peuvent traiter aussi bien de bricolage que de politique, écrire des romans,
De découvrir la vie sur l'île Dieu, la vie en dehors de l'île Dieu, tout en ayant un lien avec l'île Dieu.
Voilà.
Je pense à Maurice Essel, je pense à Bernard Groisard, je pense à énormément...
Jean-Paul Léger,
énormément d'auteurs. Donc le principe, vous venez sur le port le 9 août et vous aurez l'occasion de vous procurer ces ouvrages. Un petit clin d'œil d'ailleurs à la Maison de la Presse de Port-Joinville. Et vous pourrez rencontrer ces auteurs, vous faire signer ces ouvrages. Il y a aussi un atelier d'écriture et un concours de nouvelles que vous avez lancé peu après dans la foulée.
Alors que j'ai lancé il y a deux ans, un premier concours qui a été aussi un grand succès. On a reçu près de 100 nouvelles et 12 ont été publiées. J'avais mis en place un jury qui a travaillé dans l'anonymat le plus total. Et ce livre aussi a été un grand succès. Il s'appelle « Nouvelles de l'île Dieu ». Et donc, nous avons recommencé cette année. Là, nous avons reçu 68 nouvelles. Le jury aussi les a lues et a choisi 12 nouvelles qui sont publiées dans un livre qui s'appelle « Nouvelles de l'île Dieu 2017 ».
Voilà.
Et bon, les auteurs de ces nouvelles seront sur le port aussi pour signer cet ouvrage.
Voilà, cet ouvrage qui est aussi disponible, décidément, j'en profite, à la Maison de la Presse, édition 2017. Mais vous avez encore de disponible l'édition précédente, ce qui vous fait à chaque fois plus d'une dizaine de nouvelles.
On commence une petite collection sur les nouvelles de l'île Dieu qui sont charmantes, dois dire. Et là aussi très différentes, des styles très différents. Il y a des tristes, des gays, il y en a qui traitent d'histoire, il y en a d'autres.
Alors le cahier des charges, c'était que ça se passe
à l'île Dieu. C'est-à-dire que c'est la seule contrainte, l'histoire de se situer à l'île Dieu, mais on peut très bien ne pas habiter l'île Dieu et écrire une nouvelle qui se situe à l'île Dieu.
Et quand les nouvelles ont été présentées, les auteurs étaient anonymisés, donc on ne savait pas si c'était un touriste ou un pas touriste.
Non,
on ne savait pas.
Et là, il y a deux îlets qui sont dans les 12 nouvelles.
Alors, des auteurs. On parle beaucoup des auteurs. Vous aimez mettre en valeur les auteurs, Marie de Henzel. Mais moi, je n'oublie pas que vous êtes aussi un auteur. Au combien difficile d'oublier cela. Votre dernier ouvrage, chez Fayard, collection Versilio, « Croire aux forces de l'esprit ». Alors, pour la jeune génération qui peut-être nous écoute, voilà une expression qui a beaucoup marqué la mienne et puis les plus aînés. C'est une expression qui a été prononcée par François Mitterrand. Lors de sa dernière allocution, il nous a dit au revoir et il a parlé de ses forces de l'esprit. On a tous été interloqués devant notre poste à l'époque, je peux vous l'assurer. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? À quoi fait-il allusion? Et voilà que bien des années plus tard, seulement maintenant, Marie de Henzel, vous nous donnez une clé. Cette clé, elle était cachée dans un tiroir secret. Ils sont nombreux, les tiroirs secrets que possédait François Mitterrand, le président François Mitterrand. Vous étiez cachée, vous, Marie de Henzel, dans l'un de ces tiroirs secrets. C'est la psychanalyste qui parle, la psychologue.
Mais je n'ai jamais été sa psychologue, justement. J'avais pas cette fonction-là.
En tant que psychologue de l'individu, je suis d'accord, mais quelque part pour évoquer, pour parler avec lui de spiritualité, du cosmos, de tas de choses, il fallait peut-être avoir une petite fibre et beaucoup de
alors
de
nous avions en commun un intérêt spirituel. Et voilà. Je dis bien spirituel qui est plus large que religieux. Parce que François Mitterrand, qui bien sûr avait des racines chrétiennes, il disait « je suis un peu druide ». C'est-à-dire que c'était une spiritualité cosmique qui était liée à la terre, au ciel, aux pierres, aux arbres. Donc, il avait cette spiritualité très large. Et moi-même, je suis passionnée par le sujet de la spiritualité aussi. Et j'ai exploré toute forme de spiritualité, aussi bien en Inde, chez les bouddhistes, même chez les soufis. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment le point commun, c'est que finalement, dans toutes ces traditions, il y a un au-delà de l'être. On ne se définit pas uniquement par son corps, on a une âme, on a un esprit, et il y a un au-delà. Et l'être humain sent ça, sent qu'il y a cette dimension. Et François Mitterrand sentait cette dimension. Et je crois que c'était quelqu'un qui percevait, qui était dans la sensation. C'est pour ça qu'il disait « je ne sais pas si je crois, mais je suis sûre que je sens ». Et il sentait les énergies. Il n'est jamais venu à Lisieux, mais je suis sûre qu'il se serait promené près des cailloux blancs ou bien près des pierres à cupules. Il aurait senti qu'il y avait de l'énergie sur ce petit caillou.
Donc il y a croire dans cet au-delà, dans ces sensations. Et puis il y a la rencontre entre deux énergies, parce que c'est vraiment ce qui ressort de cet ouvrage. C'est une rencontre comme on en rêve dans le rapport homme-femme. C'est une rencontre qui n'a pas d'enjeu de séduction au sens terrestre, au sens trivial du terme. Vous l'affirmez dans votre ouvrage. Oui. Il n'est pas question de parler du rapport de liaison homme-femme au sens traditionnel. C'est purement une relation intellectuelle. Il vous sort de son tiroir secret quand il a le temps, eu égard à ses affaires quand même. Pourquoi vous décidez d'en parler maintenant ?
Parce que j'avais rencontré Sœur Emmanuelle il y a 10 ans, qui m'avait demandé de lui parler de ma relation avec François Mitterrand. Et elle m'avait dit « Marie, promettez-moi que vous écrirez ce que vous venez de me dire, parce qu'il faut que les Français connaissent cet aspect caché, mystique de l'ancien président ». Ça complétera le portrait que l'on en a, parce que c'était quelqu'un de très complexe. Et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et c'est vrai que j'ai raconté des choses que j'ai raconté à personne. Même mes enfants qui ont lu le manuscrit l'été dernier m'ont dit, mais maman, on ne savait pas tout ça. Donc j'avais gardé ça très secret et j'ai eu envie quand même de le partager.
Alors il y a cette envie de partager, il y a cette urgence, en quelque sorte, vous vous dites il faut le partager maintenant, mais peut-être que vous avez été aussi, j'imagine, moi, un peu poussé par l'époque, maintenant. Il était peut-être temps maintenant de montrer que derrière certains hommes politiques, il y a une forme de hauteur, il y a une manière d'exister, de réfléchir qui est tout de même assez spécifique, assez particulière, qui les pousse peut-être à aller dans cette voie.
Alors François Mitterrand me disait, parce que de temps en temps, on ne parlait pas beaucoup politique, mais il me disait, un homme politique, et surtout quand il a des responsabilités de chef d'État, il doit avoir une profondeur. Et il ne peut avoir une hauteur de vue que s'il a une profondeur. Ça veut dire que pour lui, un homme qui avait des telles responsabilités, il devait avoir une spiritualité. Ça lui paraissait vraiment aller avec la fonction, justement. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était beaucoup, tous les gens qui l'ont approché étaient beaucoup dans la... Il avait une grande réflexion, c'est quelqu'un qui voyait loin et qui aussi était vulnérable, parce que c'est un aspect que j'aborde dans le livre. Il ne faut pas oublier que c'est un homme à qui on avait donné 3 ans à vivre et qui a survécu 12 ans, qui se savait malade, sa maladie n'était pas guérie, et qui était hantée par toutes les questions qu'on se pose tous face à la mort et face justement à notre destin d'humain qui est limité dans le temps.
Alors là, vous levez le voile sur une facette qui est peut-être la facette la plus universelle de cet ouvrage, qui fait que cet ouvrage, Croire aux forces de l'esprit, chez Fayard, il résonne en nous. C'est qu'il nous prouve que le mental peut énormément. Je voudrais d'abord préciser qu'il n'y a rien de chronologique. Si on ne connaît pas bien l'histoire de François Mitterrand, si on ne s'intéresse pas à l'histoire de François Mitterrand, à sa biographie, à ce qu'il en a fait, ben ce n'est pas grave. Parce que finalement, cet ouvrage, il nous parle d'un homme qui se pose énormément de questions, des questions fort intéressante. Vous savez l'aider à rebondir. Vous n'êtes pas forcément là pour donner complètement réponse à ces questions. Vous l'aidez à poser, vous aussi, ces questions. Et ça nous aide, nous, lecteurs, énormément. Que se passe-t-il? Pourquoi exister? Vous aviez le sentiment, en écrivant, de nous livrer, à nous, lecteurs, comme ça, quelque chose d'aussi universel?
En l'écrivant, oui, ouais. Parce que j'avais du recul. Ouais. Sur le moment, peut-être pas, mais oui, c'est vrai qu'il aborde toutes les questions que tout le monde se pose à partir du moment où on se dit « oui, je suis mortel, je ne serai pas toujours là ». Et voilà, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est essentiel? Vers quoi je vais? Enfin, toutes ces questions que l'être humain se pose. Et voilà, donc nous avons échangé autour de livres aussi, parce que je lui prêtais des livres, il m'en prêtait aussi. Il m'a fait découvrir par exemple Eti Ilsoum, le journal de cette jeune juive qui sait qu'elle va finir dans un camp d'extermination et qui écrit un journal magnifique sur la valeur de la vie, sur le prix de la vie, sur tout ce qu'elle savoure parce qu'elle sait qu'elle n'en a plus pour longtemps. Et ça bouleversait l'ancien président.
Je l'ai dit en introduction, croire aux forces de l'esprit, c'est donc une expression que vous avez évoquée tous les deux. C'était dans quel contexte?
Oui, la deuxième fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait... il m'a dit, vous savez que les médecins m'ont donné 3 ans à vivre et j'arrive au bout de mon espérance de vie. Et je lui ai dit, mais qui peut vous dire le temps qui vous reste à vivre? Ce temps dépend du désir de vivre, de ce qu'on a encore à faire sur Terre et des forces de l'esprit. Et il a tenu à reprendre cette expression 10 ans plus tard en disant « Je crois aux forces de l'esprit ».
Marie de Henzel, comment vous vivez l'île-Dieu?
L'île-Dieu, j'ai eu un coup de cœur il y a maintenant plus de 20 ans. Mm-hmm. Et donc, j'y viens très souvent, j'y viens en dehors des vacances, j'y viens même l'hiver. De temps en temps, j'écris, je me ressource. Pour moi, c'est un éblouissement. Je ne me lasse pas de l'île-Dieu. Je me disais, je vais dans les mêmes coins, par exemple, il y a plusieurs coins que j'aime, et à chaque fois, je suis étonnée et surprise, parce que c'est jamais pareil.
Vous y écrivez?
Et j'écris, oui.
Vous avez besoin d'écrire souvent?
Alors moi, j'écris, j'écris facilement, heureusement cette chance. J'écris par petits bouts, comme ça, et puis surtout je marche beaucoup, je réfléchis à ce que je vais écrire. Donc j'écris aussi dans ma tête avant d'écrire sur le papier.
D'accord, donc l'écriture vient, ce n'est pas une souffrance.
Hein. Non, c'est une sorte de méditation.
C'est par un petit mot écrit que vous avez fait la connaissance de François Mitterrand?
C'est par un
échange.
C'est-à-dire que, non, je l'ai rencontré, je lui ai écrit, effectivement, voilà. Et il m'a répondu, et la lettre est dans le livre.
En exergue, voilà, il y a une copie de la lettre. Vous l'avez souhaité, votre lettre m'aide, je vous en remercie, j'aimerais vous connaître. Est-ce possible? Le mot correspondance a pour moi son véritable sens, grâce à vous. Croyez, madame, en mes sentiments personnels de gratitude. L'écrivez bien.
Oui, voilà, donc... Effectivement, ça a commencé par une petite correspondance, mais je crois que le mot correspondance qu'il évoque va bien au-delà de la correspondance écrite. Je crois qu'il voulait dire qu'il sentait déjà que nous étions sur la même longueur d'onde. Et nous avions une complicité sur toutes ces questions spirituelles.
L'homme profond, L'homme mystique, en quelque sorte, c'est à découvrir que cette facette ô combien particulière de François Mitterrand, facette qui, je vous le rappelle, résonne en nous tous. C'est franchement un livre à lire. Croire aux forces de l'esprit, Marie de Henzel, aux éditions Fayard, Versilio, à découvrir dans toutes les bonnes librairies et plus particulièrement, bien sûr, à la Maison de la Presse de Port-Joinville.